Alors, nous allons continuer ici, lire le texte dans Moroni Bouchim du Rambam, deuxième partie, dans le Rambam, c'est deuxième partie, chapitre 17, la fin de chapitre 17, où le Rambam analyse la providence, la surveillance, la providence, le secours céleste, la Hashgacha Pratit en hébreu. La providence, c'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu il se occupe personnellement de tous les événements ou non. Alors le Rambam il a donc développé que pour les animaux, Yashgacha Kelalit, les animaux, ils sont mangés, les petits sont mangés par les grands, par le système qu'Akadosh Baruch Hu il a créé au moment de la création du monde, mais il ne se mêle pas quelle sardine va rentrer dans la bouche de quel saumon, comme on a dit, etc. Quelle mouche va être mangée par quelle araignée, c'est pas son problème. Le problème d'Hachem, c'est les humains. Tout ce qui rentre dans le projet divin directement, alors, ça c'est ce qui intéresse Hachem. Il a besoin de savoir telle et telle personne, qu'est-ce qui lui arrive. Plus que la personne est penchée vers Hachem, plus que la personne pense à Hachem, plus que la personne programme sa vie en phase avec le programme qu'Hachem a demandé, plus cette personne intéresse, si on peut dire ainsi, Hachem, et plus Hachem lui fait une Hashgacha Pratit, il surveille, et in Hachem el yireav, l'amiyachalim l'chazdo, les yeux de Dieu sont dirigés vers ceux qui le craignent, ceux qui font les mitzvot, ceux qui pensent à Hachem, Hachem y pense à eux. Moins qu'un homme y pense à Hachem, moins Hachem pense à lui, plus il rentre dans la catégorie d'un animal qui a seulement Hashgacha Kelalit. Ça, c'est l'histoire du Rambam. On avait dit que le Baal Shem Tov dit qu'Hachem y surveille les animaux aussi. Alors, probablement, il n'y a pas de machloket entre le Baal Shem Tov et le Rambam. Parce que, comme on voit, le Rambam, il dit aussi qu'Hachem y connaît tout. Et probablement, le sens, il est que compte cette sardine sera rentrée dans la bouche de tel saumon. S'il y a une différence vis-à-vis d'un humain plus tard, alors dans ce cas-là, il fait Hashgacha Pratit, bien sûr. On avait dit qu'Avayaman Hashem Dagadol Evlo et Yona. Quand il s'agit de sauver Yona, bien sûr, à Kadesh Baruch Hu, il tiendra compte la baleine, etc. De présenter la baleine pile au moment où Yona il a besoin de quelqu'un pour le sauver. Donc, quand ça change dans le projet d'Hachem, à Kadesh Baruch Hu, bien sûr, il surveille et il dirige. Quand ça ne change pas, il le laisse Darko Shel Olam, Tivo Shel Olam. Alors, c'est une expression. Ce que le Rambam il dit, qu'à Kadesh Baruch Hu laisse la nature faire, ce sont des expressions dans la Gemara, souvent. Olam Kemin Hago Noheg, le monde marche d'après sa nature. Les événements du monde, il se développe d'après les règles de la nature. Il y a d'autres expressions dans la Gemara. La Gemara nous dit Adam itle mazle, beheima letle mazle. L'homme, il a un mazal, c'est-à-dire le mazal de la Gemara, c'est-à-dire la providence, la surveillance personnalisée. La Gemara nous dit Adam itle mazle, beheima letle mazle. L'homme, il a un mazal, la beheima n'a pas de mazal. La beheima, elle est sous la mazal klali, pas un mazal prati. Ça, c'est mefourage. Ce que le Rambam me dit, c'est marqué mefourage dans la Gemara. On trouve aussi dans la Torah, im telchu imikeri, vahalachti afani imachem bekeri. Si vous marchez avec moi par hasard, je marcherai avec vous aussi par hasard. C'est-à-dire, l'homme qui considère que les événements du monde, il vient par hasard, pas par Hachem, Hachem se comporte avec lui aussi et le mettre dans hasard, c'est-à-dire dans Tivo Shel Olam, dans les règles de la nature. Et dans les règles de la nature, des fois on se fait manger par le plus grand il mange normalement le plus petit, et les accidents ils arrivent d'après les règles de la nature. Il y a par exemple une Gemara, et ça c'est quelque chose de très important, et ça nous fait expliquer mille choses, il y a mille questions, qu'on se demande toujours toute la vie. Je vais dire ici, la question fondamentale, qui est-ce qui fait si j'ai réussi ou si je ne réussis pas? Est-ce que c'est l'Hashgacha d'Hachem ou est-ce que c'est les règles de la nature? Alors, il y a par exemple, tout le monde connaît cette Gemara, quand une femme elle accouche. Alors, Marminan, il y a des femmes qui, pendant qu'elles accouchent, elles peuvent mourir. Alors, on dit dans la Mishnah, Beshlosha, Anashim Metot Beshat Ledatan, il y a trois choses qui font qu'une femme pourrait mourir pendant l'accouchement. si elle ne fait pas attention, al chala hadlakat nerot shabbat hadlakat nerot chala enida. Alors la Gemara pose la question. Si cette femme n'a pas fait attention à ce qu'elle doit faire et Hachem veut la faire mourir, pourquoi la Mishnah nous dit pendant qu'elle accouche? Alors, il peut faire n'importe quel moment. Alors, sur ça, la Gemara donne le fameux proverbe connu que quand le taureau y tombe, le shochet aiguise son couteau. Vous connaissez ce proverbe de la Gemara? Alors, vous allez le connaître à partir de maintenant. C'est quoi le sens de ce proverbe? Quand un homme il veut égorger un taureau, vous avez déjà vu un taureau? Alors, si vous prenez un couteau de chouchette et vous vous rapprochez un taureau pour lui couper la tête, il ne se laisse pas faire. Il va courir, il va se sauver, ou il va vous cogner, ou il va donner des coups de pied. Alors, comment faire? Alors, il faut le faire tomber par terre. Donc, il faut qu'on l'attrape, et qu'on lui tire les pieds, qu'on le fait glisser pour qu'il est par terre. Après, on le coince et on lui attache les mains et les pieds. Bon, il est calme et maintenant, on peut faire la shrita. Bon, ça c'est comme ça, on fait la shrita. Maintenant, la Gemara dit un proverbe. Quand le taureau tombe, le shochet aiguise le couteau. Ça veut dire, tant qu'il n'est pas tombé, pourquoi je vais aiguiser mon couteau? Je n'ai pas de chance, je ne peux pas attaquer un taureau que debout. Eh ben, je n'arrive pas. Maintenant, il est tombé. Donc, d'après les règles de la nature, c'est plus facile maintenant à l'égorger. Alors le shochet, il aiguise le couteau. Ça y est, on va s'approcher. La Gemara utilise ce proverbe vis-à-vis d'Hachem. Quand HaKadosh Baruch Hu veut encaisser la dette, sa dette vis-à-vis d'une personne, une personne qui ne fait pas les mitzvot. Et Hachem, il a dit, bon, c'est arrivé le moment, je veux liquider cette personne. Alors HaKadosh Baruch Hu dit, si cette personne est en bonne santé, s'attaquer à quelqu'un en bonne santé, c'est pas si facile. HaKadosh Baruch Hu, il attend que la nature affaiblit la personne. Donc quand la femme, elle accouche, donc elle est en danger. Donc, c'est provoquer une hémorragie, c'est pas trop difficile. Dans les règles de la nature, ça pourrait arriver. Donc, HaKadosh Baruch Hu dit, de toute façon, je vais liquider la personne. J'attends que cette femme arrive au moment critique. Et à ce moment-là, je peux encaisser. C'est pour ça, une femme, quand elle accouche, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire deux choses. Elle doit prier Hachem, fais-moi sortir vivant de cette affaire, une chose. Et deuxièmement, elle doit prendre des précautions. Je vais aller à l'hôpital, je vais voir un médecin. Font les précautions pour que l'accouchement marche bien. Mais quand la Gemara nous parle de l'accouchement, c'est un exemple. Il y a mille autres exemples. Quand quelqu'un il va dans un, quelqu'un il fait un voyage, on fait tefilat aderech. Pourquoi on fait tefilat aderech quand on voyage? Sauf moi qui n'arrive pas d'accident. Et pourquoi quand je marche en route? Quoi?
Non, parce que
sur la route, il y a des dangers. Quel genre de danger? Sur la route, autrefois, il y avait des bandits. Sur la route, il peut y avoir un trou. Sur la route, on peut s'égarer. La route, on peut perdre la route et dans le désert. On peut perdre et après, on meurt de soif. Kol ha derachim b'cheskat sakana. Les chemins sont tous toujours dangereux. Dans la ville, ce n'est pas dangereux. On connaît les routes. Il n'y a pas tellement des bandits dans la ville parce qu'on sait crier. Il y a des gens qui vont venir aider, etc. On raconte en nom de Raphaël Kanievski qu'il a dit qu'à notre époque, avec l'excédent de voiture Barminan, on peut faire tefilat aderech même dans la ville, comme ça il dit. Je ne sais pas si c'est un halakha ou pas, mais en tout cas, on pourrait s'imaginer d'être obligé de faire tefilat aderech dans la ville aussi, parce qu'il y a maintenant des accidents de voiture. En tout cas, c'est quoi la règle? Quand tu te mets en danger, je suis obligé, il faut prendre un risque, il faut que je voyage. Sur le voyage, bon, ce n'est pas une sur deux, c'est une sur 5 000 qu'il arrive un accident, une fois sur 10 000, mais ça pourrait arriver. Donc on fait tefilat, et on prend aussi les précautions. Si je vais aller dans le désert, je prendrai un boussole, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu a décidé? Que je dois mourir aujourd'hui ou je ne dois pas? Si il a décidé, alors à quoi ça sert de prendre un boussole? À quoi ça sert de faire... Ça y est, non, HaKadosh Baruch Hu n'a pas décidé. S'il n'a pas décidé, donc je ne meurs pas. Pourquoi j'ai besoin de prendre des précautions? C'est parce que je me mets en danger, donc il faut diminuer le danger. Le danger, c'est toujours un certain pourcentage de danger. Dans ce certain pourcentage de danger, il y a ce qu'on appelle tivo shel olam, la nature. Olam ke minhagon oheg, le monde se comporte d'après son minhag, d'après la nature. Donc dans la nature, il y a une chance sur 1 000 qu'il y ait un accident. Il y a 999 que je vais échapper, mais il y a une sur 1 000 qu'il y ait un danger. Donc ça peut m'arriver, c'est une sur 1 000. Donc, prends tes précautions pour diminuer, que ce ne sera pas 1 sur 1000, que ce sera 1 sur 10 000, que ce sera 1 sur 100 000. Avant que tu prennes la route, vérifie les pneus. Et si je vérifie les pneus, il ne peut pas arriver un fou qui me rentre dedans aussi. Mais si je vérifie les pneus, si ma voiture elle est en bon état, le fait que peut-être un fou va me rentrer dedans, ça existe. Ça existe, cette chance. Mais si en plus, je ne vérifie pas les pneus et je roule vite et le pneu peut exploser, donc il n'y a pas une chance sur 1000, il y a une chance sur 500, une chance sur 300. Donc il faut que je diminue les risques parce qu'il faut tenir compte du min hagor chez l'olam. C'est pour ça qu'on fait tfilat teder et on prend des précautions quand on est obligé de faire quelque chose qui est dangereuse. Donc il y a les deux choses. Hachem peut intervenir. Hachem, il peut faire que quelqu'un, le pneu, il explose et il y a un accident terrible et il sort indemne. Des fois, il y a des choses extraordinaires. Il y a des gens qui sont tombés du 6e étage et ils se sont tirés avec des égratignures. Comment c'est possible, hein? Pile, il y avait la neige, il y avait un matelas, un truc, machin. Une chance sur 10 000. Et il avait cette chance. Hachem a mis son œil dessus. Ça, c'est Hachgacha Pratit. Une chance sur 10 000 est arrivée, on t'a sauvé. On dit, Hachem, il t'aime, il t'a fait un miracle. Maintenant, des fois, il faut payer avec des rouillottes avec ça. Hachem, il t'aime, il t'a fait un miracle. Voilà, ça c'est Hachgacha Pratit. Mais il faut qu'Hachem, il veuille le faire. Comme l'homme ne sait pas si Hachem, il veut. Donc, je ne peux pas me mettre en danger. Ça, c'est le Yesod, qu'il y a deux choses. Il y a la nature et il y a Kadesh Baruch Hu. Et des fois, il laisse la nature libre cours. Et l'accident, il arrive d'après au pif. Et des fois, Hachem, il protège. Mais des fois, Hachem, il dit, je jette un peu un coup d'œil, mais pas trop. Hein? Donc, ne prends pas trop. Si tu fais un peu danger, je vais te protéger. Mais si tu fais vraiment la folie, quelqu'un, il va fermer les yeux, il va rouler comme un fou à place de la République. Alors si ta voiture n'est pas en bon... Ben, un peu un risque. Bon, tu peux prendre un peu un risque. Tu as des mérites. Hachem va te protéger. Mais il ne faut pas trop... Il ne faut pas trop demander à Hachem. Donc ça, c'est les Yesod. Alors maintenant, nous allons continuer à lire ici le Rambam. Alors, le Rambam, il dit que pour les animaux, comme les animaux, ils n'ont pas de programme céleste, ils sont dans le programme céleste contre leur gré, ils font partie des meubles du monde qu'Hachem, il a besoin qu'il y ait des animaux, mais lui-même n'a pas de conscience. Donc, il y a quelle hashgacha, quelle alit. Alors maintenant, le Rambam, il pose une question sur lui. Il ne faut pas croire que cette opinion, ce que je viens de dire, que pour les animaux, il y a Hashgacha Klalit seulement, soit réfutée par des passages comme ceci. Noten libheima lachma livne orev ashayekrao. Dieu, il donne aux animaux son pain et aux jeunes corbeaux ce qu'ils appellent. C'est-à-dire, les jeunes corbeaux appellent Dieu et Dieu leur donne à manger. Donc, il semble qu'Akadéor s'occupe personnellement de chaque corbeau. Ou hakeferim shoagim la taref, les tigres. On a la semaine dernière, je vous donnais la feuille. Avant le 18. Hakfirim shoagim la taref. Les tigres, ils hurlent pour avoir taref, pour pouvoir déchirer un antilope, un mouton. Umavakesh mekel ochlam. Et ils demandent à Dieu leur nourriture. Et Hachem leur donne. Comme il leur donne, il fait passer un antilope devant le tigre. Et les tigres, ils mangent. Poter et yadecha mazvir lochol chayratzon. Dieu, il ouvre sa main. Et il nourrit kol chay, tout ce qui est vivant, il nourrit ratson de bonne volonté. Alors donc on voit qu'Hachem s'occupe des animaux. Même par ce passage de Rabbanim, on peut aussi poser une question. Ce que les Rabbanim disent, assis sur son trône, à Kadosh Baruch Hu Yoshev al Kisekvodo, il nourrit tout, depuis les cornes des buffles jusqu'aux œufs des insectes. Donc ça c'est le Ma'amar de la Gemara, Kadosh Baruch Hu Yoshev Berumo Shel Olam, Umezin Kol Olam Mikar Nereimim Ad Beitze Kinim. Même les œufs des insectes, Hachem s'occupe. Alors donc, Hachem s'occupe des animaux. Tu trouveras beaucoup de passages semblables, mais il n'y a là rien qui refute mon opinion. Car dans tous ces passages, il s'agit d'une providence veillant sur les espèces et non sur les individus. Hachem, il veille sur les espèces des animaux et on y décrit pour ainsi dire la bonté divine qui prépare pour chaque espèce la nourriture qui lui est nécessaire et les moyens de subsistance. Donc ça, c'est pendant la création du monde. Hachem, il a créé que même les insectes, ils trouvent leur nourriture. La plus petite insecte, le cerf, l'antilope, les grands animaux, ou la plus petite animal qui existe, trouvera aussi ses moyens de subsistance. Si les rabbinim disent que tourmenter les animaux est une chose défendue, ça veut dire tzar balachaim mina Torah, c'est interdit. Ce qui rattache à ce passage, on voit dans la Torah, pourquoi tu as frappé ton ânesse? Le Malachi a dit à Bilam, pourquoi tu as frappé ton ânesse? Alors, qu'est-ce qu'il y a du mal? Alors, je vais frapper mon ânesse. C'est quoi la question du malheur? Parce qu'on ne frappe pas une ânesse. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est intéressé quoi? La douleur des animaux. Alors, si Hachem, il est intéressé que les animaux n'ont pas de douleur, alors comment ça se fait que tous les animaux mangent les autres, hein? Quand le tigre, il va déchirer un antilope, aussi il a mal l'antilope. Quand le lion, il va manger une brebis, il va déchirer les brebis, le mange vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Quand les animaux sauvages, des tigres, ils se mettent sur une vache, alors ils mangent la vache vivante. Hein? C'est bon à regarder. Hein? Elle mange la vache vivante. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est intéressé que les animaux ont de douleur et ils n'ont pas de douleur. Si tu dis Hachem, ils sont fous, alors pourquoi Bilam n'a pas le droit de frapper son ânesse? Si tu dis Bilam n'a pas le droit de frapper l'ânesse, parce qu'Hachem ne veut pas les douleurs des animaux. Alors, comment ça se fait que pour tous les animaux, il nous semble à nos yeux quel animal il souffre? Alors, la Rambam y répond. Alors, c'est une très grande question que la Rambam y demande. C'est une bombe atomique. Si Hachem il est intéressé que les animaux ne souffrent pas, pourquoi toute la nourriture des animaux est liée à des souffrances? Alors il dit, c'est en vue de notre perfection morale, afin que nous ne fassions souffrir les animaux en vain et sans aucune utilité. C'est-à-dire, le fait que l'animal souffre, ça ne gêne pas Hachem. La souffrance des animaux, ça ne gêne pas Hachem. Peut-être il ne souffre même pas. Qui me dit que l'animal souffre? Peut-être il ne souffre pas. Parce qu'à nos yeux, nous voyons que l'animal, il tire les yeux comme ça. Parce que si ça
vient.
Hein? Il a des nerfs. Et est-ce qu'il souffre vraiment?
Déjà, il a peur.
Alors, il y a une définition. Je ne sais pas si elle est vraie ou elle est fausse. Écoutez bien. Il y a la douleur et il y a la souffrance. Est-ce que c'est la même chose ou pas?
Non.
La douleur, c'est physique. La souffrance, elle est morale. On peut avoir mal physiquement, mais on n'a pas des douleurs, ou on peut vivre avoir des douleurs. Il y a des gens, quand ils souffrent, ça leur fait pas mal, comme on dit. Ça veut dire, ça fait mal, mais il y en a des gens qui kiffent la douleur. Comment on appelle ça? Sado? Sadomachisme, on appelle ça? Ils souffrent et kiffent de souffrir. Vous connaissez cette fameuse histoire? C'est une histoire très profonde. Très, très, très profonde. Ça confirme d'ailleurs ce que la Rambam il a développé dans tout ce qu'on a fait la semaine dernière. La Gemara nous raconte que Rabbi Eliezer était malade. Alors, son quatre hachamim sont venus le visiter. C'est une Gemara dans Sanhedrin. Quatre hachamim sont venus le visiter. Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Bon. Alors, quand les hachamim ils arrivent, ils sont assis à côté de lui. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, « Chama aza ba'olam ». Il y a un soleil de folie contre le monde. C'est-à-dire quoi? Un soleil, il voulait dire la colère divine. Il y a une immense colère contre le monde. Le monde, il voulait dire lui-même. Ça veut dire, je vois, Hachem, il est très fâché avec moi. Avec de telles souffrances, Hachem, il doit être très fâché avec moi. Comme ça, il disait Rabbi Eliezer. Il voulait entendre ce que ses copains disent. Alors, Rabbi Tarfon, il essayait de le consoler, il essayait de remonter le moral. Alors, Rabbi Tarfon, il dit, vous savez, maître, vous êtes mieux pour le peuple juif que la pluie. La pluie aide au monde, nourrit le monde. Avec la pluie, ça fait pousser les fruits. La pluie sert aux gens dans ce monde. Mais vous, le maître, avec votre Torah, vous servez pour le peuple dans ce monde et dans l'autre monde. Alors, courage maître, que vous pouvez supporter les souffrances. Alors, Rabbi Yeshua, il a dit, maître, vous êtes plus important pour le monde qu'un père et une mère, parce que le père et la mère aident à l'enfant dans ce monde, et vous nous aidez dans ce monde et dans l'autre monde. Alors, Rabbi Eliezer ben Azaria prend la parole. Maître, vous êtes plus important pour nous que le soleil, parce que le soleil nous aide dans ce monde, et vous dans ce monde et dans l'autre monde. Alors Rabbi Akiva, il prend la parole. Rabbi Akiva, il dit, c'est un grand kiff de souffrir. Chavivin Israël, c'est très aimé de souffrir. C'est une super affaire de souffrir. Pourquoi c'est une super affaire? Parce que ça pardonne les péchés. Alors, Rabbi Eliezer, il dit, soutenez-moi aidez-moi un peu de se lever pour que je peux mieux écouter ce qu'il dit, mon élève, à qui va. Je veux entendre un petit peu à qui va. D'où tu sais ce que tu dis? Prouve-moi ce que tu dis. Que c'est une bonne affaire de souffrir. Alors, Rabbi Akiva, il a fait tout un développement. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, il y avait un roi qui s'appelait Menaché. Il était le fils du roi Chizkia. Et le roi Chizkia, il a enseigné la Torah à tous les Juifs. Et son fils était un voyou complet, un Racha Marusha. Il régnait 55 ans et il était un Racha, c'est marqué dans la Tanakh. Alors, Rabbi Akiva, il demande, mais Chizkia, le roi Chizkia, il a enseigné la Torah à tous les Juifs. Et à son fils, il n'a pas enseigné. Évidemment que oui. Donc, il a dit du moussard à son fils. Il n'a pas pu faire que son fils, il est devenu un homme bien, un juif bien. Il n'est pas devenu. Ça ne servait à rien. Tout le moussard que le père, il a dit au fils, n'a rien servi. Et pourtant, Menaché, il a fait teshuva. À quel Menaché, il a fait teshuva quand il était dans une situation perdue. Il est marqué dans le texte, le roi d'Ashur, il est venu à Yerushalayim. Ils ont attrapé ce Menaché, ils l'ont exilé en Babylonie. Quand ils l'ont pris en Babylonie, alors le roi, il dit, toi, Menaché, je vais me venger sur toi. Et ils ont fait un immense feu. Et au-dessus du feu, ils ont accroché une marmite en cuivre. Et cette marmite, elle a été trouée. Alors, ils ont mis Menaché dans la marmite. Ils l'ont accroché en haut. Ils ont allumé le feu en bas. Hein? C'est bon, ça. Ça demande un bon steak. Alors, il a commencé, ça a commencé à chauffer. Et ça chauffe, et ça chauffe. Ah, ça, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Menaché? Alors, Menaché, il a dit, Dieu de Libanais, sauve-moi. Que la chaîne craque et que je puisse me sauver. Mais la chaîne n'a pas craqué. Alors, il dit, que le Dieu des Syriens m'aide. Ça n'a pas... Et les dieux des Irakiens, et les Krishna, et les Bouddhas, et les trucs. Il a appelé tous les dieux du monde, ça ne marchait pas. À la fin, il était désespéré, et ça chauffait bien. Alors il dit, mais mon père, Chizkia aussi, il a un dieu, les dieux des Juifs. Et le père de David et Melach, et le père d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Bon. Alors maintenant je vais téléphoner au dieu des Juifs. Alors il dit, Dieu de mes parents, je veux être que tu m'aides. Mais je fais un pari avec vous. Takadesh Baruch Hu, ou tu m'aides, ou tu ne m'aides pas. Si tu ne m'aides pas, eh ben tu seras autant, entre guillemets, nul que les autres. Tu veux que je dirais que je te compare aux autres dieux? Quand il a dit ces paroles, c'était une provocation, un chutzpah terrible, provocation. À ce moment-là, la chaîne a craqué. La chaîne a craqué, boum! Et il a sauté, il a pu sauter et il s'est sauvé. Il a échappé, il est venu à Yerushalayim, il est devenu religieux. Alors, comme ça la Gemara nous raconte. Ici, la Gemara nous raconte que jouer avec quelqu'un, avec insolence, des fois on peut gagner. On n'a pas le droit de faire, mais il a fait, des fois on gagne. Il y a des gens comme ça, ils sont insolents. Ça veut dire, ils mettent, des fois il y a des enfants en classe, qui ne travaillent pas, qui méritent 3 sur 20 ou 0 sur 20. Et le prof, il dit, voilà, je te mets un 0. Et l'élève, il dit, maître, vous me mettez 20 sur 20, sinon je me suicide. Alors, qu'est-ce qu'il fait le prof? Non, je ne veux pas que tu suicides, ça va, tu as tes 20 sur 20. On peut gagner comme ça, on peut réussir comme ça. C'est un chutzpah, mais ça existe comme ça. Et lui, il a joué comme ça, Menaché. En tout cas, Rabbi Akiva, il dit, maître, vous entendez? Je vous compare à qui? À Menaché. Menaché est le plus grand voyou du monde. Son père n'arrivait pas à le redresser. Mais être dans une marmite de cuivre grillée comme un poulet gris, ça fait tchouva, ça le fait rendu. Alors maître, vous souffrez une immense souffrance, mais quel kiff! C'est bon pour vous, ça va vous pardonner vos péchés. Et Rav Lezer, il a écouté. En vérité, on peut poser une question ici. Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit, maître, c'est les souffrances sont pour vous donner plus d'olam haba. Vous vous rappelez que le Rambam, la semaine dernière, on a fait le Rambam. Il a cité qu'il y a dans la Gemara l'avis global de tous les Chachamim qu'il n'y a pas de souffrance sans péché. Mais il y a un avis qui dit qu'il peut exister des souffrances sans péché, simplement pour donner plus d'olam haba. Mais le Rambam dit que normalement, la majorité des Chachamim ne pensent pas comme ça, et les textes de toute la Torah montrent que chaque souffrance, elle vient d'un péché. Il y a un avis qui dit qu'exceptionnellement, ça peut être autrement, mais normalement, ce n'est pas comme ça. On voit ici aussi, Rabbi Akiva n'a pas osé de dire, il n'a pas dit à son maître, « Ah, maître, les souffrances, c'est pour vous donner plus de l'Olam Haba. » Non, pas pour ça. C'est, vous avez un péché, maître. Si vous souffrez, il y a quelque chose qui cloche. Eh bien, ça va vous pardonner, vous n'avez qu'à kiffer. Mais il dit, « Chavivin Israël, il faut aimer les souffrances. » Comment on peut aimer? Quand il dirait qu'il existe un phénomène comme ça. C'est le sentiment que ça pardonne le péché, eh bien, ça calme la douleur. Je vous ai raconté, si je ne me trompe pas, il y a une tchoua du Maharam Rothenburg. Maharam Rothenburg, il dit qu'il a vu des Juifs qu'on a torturés pour qu'ils renient le judaïsme, et ils n'ont pas renié. Pendant les croisades, il y avait des chrétiens, ils prenaient des Juifs, on leur a fait des pires des tortures, et ils avaient un visage calme, souriant. Comme ça, il dit le Maharam Rothenburg, je l'ai vu avec mes yeux. Et on les torturait, et j'ai vu qu'ils ne souffrent pas. Il a dit, il peut exister un phénomène, donc un homme ne souffre pas quand on le fait souffrir, parce qu'il est Moser Nefesh. Quel est le sens? Quel est le sens? Alors, vous vous rappelez, je pense, je vous ai dit, il existe dans le corps, comment on appelle ça, une hormone qui enlève la douleur. Comment ça s'appelle? La morphine. Alors, les gens quand on leur fait une opération, ils se réveillent de l'opération, des fois ils souffrent le martyr, alors on donne une piqûre de morphine, ça enlève la douleur. Mais le corps humain lui-même, il fabrique de morphine. Toujours, chaque matin, je pense qu'il y a pendant 2 heures le matin, si je ne me trompe pas comme ça, il y a une fabrication hormone de morphine qui fait que pendant la journée, si on se coince le doigt, pour que ça fait un peu moins mal. Maintenant, il me semble, si je ne me trompe pas, les médecins ils disent que si on fait une douche froide pendant les 2 heures du matin, hein, alors ça fait qu'il y a plus de morphine. Il me semble ça. Alors, il semble que peut-être l'homme, avec sa pensée que je suis Moser Nefesh Kiddush Hashem, ça fait activer la morphine et on ne sent pas la douleur. Alors, en tout cas, c'est ça que Rabbi Akiva l'a dit. Chavivin Israël, il faut que vous kiffez ces souffrances. Alors, en tout cas, je reviens ici, on parle des animaux. Maintenant, les animaux, est-ce que vraiment ils souffrent? C'est possible qu'ils ont les mêmes nerfs que les humains, mais le cerveau marche autrement. Le cerveau d'un animal n'est pas le cerveau d'un homme. Et c'est possible qu'ils ne souffrent pas de la même façon. Mais Yehershiye, le Rambam dit comme ça, que pour la nourriture, tous les animaux, ils sont mangés par d'autres animaux, et ça ne dérange pas Hachem. Mais l'homme qui frappe un animal, ça dérange lui. Pourquoi cela? C'est la même douleur à première vue. Non, mais c'est l'homme qui a donné Hachem, ne veut pas que les humains deviennent des abrutis. Que Bilam ose de prendre un bâton et frapper son âne, ça Hachem ne veut pas. Alors, afin que nous ne fassions souffrir les animaux vains sans aucune utilité, et qu'au contraire, nous nous appliquions à la pitié, à la miséricorde pour n'importe quel individu animal, excepté en cas de nécessité. C'est-à-dire, en cas de nécessité, quand je veux manger de la viande, comme la Torah nous dit, quand ton âme désire manger de la chair, on a le droit de faire la shrita. Alors, pendant la shrita, c'est possible qu'il y ait une seconde de douleur. Ça, Kadesh Baruch Hu l'a permis. D'ailleurs, quand on fait la shrita, est-ce que vous êtes au courant, aujourd'hui, il y a de nouveau des antisémites ici en Europe, ils veulent interdire la shrita. Au nom de quoi? Au nom de la douleur aux animaux. Alors, ils disent, il faut endormir les animaux avant de faire la shrita. En vérité, est-ce que vous avez déjà assisté à une shrita? D'un poulet ou d'une vache? Ah, d'un poulet. D'un poulet. Bon, si vous êtes costaud, allez-y dans un abattoir et regardez comment on tue la vache. Maintenant, est-ce que vous avez vu comment les goyim tuent la vache? Comment? Quoi? Avec un fusil. Non, avec un fusil, il peut tirer sur un autre boucher. Ça, c'est un peu dangereux avec un fusil. Hein? Vous n'avez jamais vu. Bon, alors je fais un petit dessin. Il y a des trucs ici. Alors bon, je ne suis pas dessinateur, alors ne soyez. Alors ça. Elle ne marche pas. Comme c'est la coutume. Alors, bon, c'est pas grave. Alors vous vous imaginez. Vous vous imaginez l'animal. Donc le monsieur, il a une espèce de fer. C'est comme un revolver où il y a un piston dedans, où il y a de la poudre d'explosif. Il prend ça, il met ça sur la tête, à un endroit de la tête, pile là où il y a le cerveau. Il pose pile dessus, il pousse un bouton, ça fait une explosion et le piston, il rentre dedans. Il rentre dedans. Un fer comme ça. Il rentre dans le cerveau, il tue le cerveau. À ce moment-là, un animal, vous allez voir. C'est très impressionnant. La première fois qu'on le voit, très impressionnant. Et tout le corps, il fait comme ça, vibrer et tout. On sent la douleur de la bête. Et quand vous avez la shrita, c'est la gentille. La shrita, on fait comme ça. Et le sang, il sort, il est tout gentil, il ne vibre pas. Calme la nashama, elle sort comme une lettre à la poste. La shrita, elle fait beaucoup. On voit avec les yeux, on voit. Maintenant, si on aurait pu mesurer la densité du douleur, c'est clair que la shrita, c'est la façon la moins douloureuse. Maintenant, est-ce que vous avez déjà vu le couteau d'un shochet? Comment on fait la shrita? Avec un couteau lisse ou un couteau comme le lisse? Est-ce que quand vous coupez le pain, vous avez déjà coupé une fois votre doigt? Qu'est-ce qui fait plus mal quand c'est avec un couteau de... Le couteau de pain, il a comme ça des dents. Et le couteau de viande n'a pas des dents. Qu'est-ce qui fait plus mal? Se couper avec des dents ou sans dents? Pourquoi? Hein? Quand c'est lisse, des fois, on sent presque rien. Et quand c'est avec des dents, ça déchire, ça fait plus mal. Maintenant, le couteau de shrita, il est archi lisse. Le shochet, avant de faire la shrita, il prend son doigt. Hein, et il fait comme ça. Il passe. La moindre truc, il faut tout de suite aiguiser. Il faut qu'il soit complètement lisse. Tout ça, c'est pour... On peut dire, on ne connaît pas la raison de la Torah, mais on peut dire qu'une des raisons, en tout cas, de la Torah, c'est pour faire moins mal à l'animal. En tout cas, ces antisémites, ils veulent toujours dire le contraire. Je continue. Donc, le Rambam, quand il dit « Dieu, il donne à manger à tous les animaux », il donne à manger à tous les animaux, ça veut dire qu'il a créé le système. On ne saurait pas non plus opposer à mon opinion cette autre question. Maintenant, il arrive aussi une grande question. Pourquoi Dieu prend-il soin des individus humains sans prendre le même soin de tout autre individu animal? C'est-à-dire, la souffrance de l'homme gêne lui Dieu. Et les animaux, ils se mangent, ça ne le gêne pas. Pourquoi c'est comme ça? Car celui qui fera cette question pourrait aussi bien se demander une autre question. Pourquoi Dieu a-t-il accordé l'intelligence à l'homme et ne l'a-t-il pas également accordé à toutes les autres espèces d'animaux? Pourquoi les humains sont intelligents et pourquoi le cheval n'est pas intelligent comme l'homme? Pourquoi? Alors c'est quoi la réponse? J'ai mis la décider. Sur ça, nous n'avons pas d'accès à ça. Certes, on répondrait à cette dernière question. Conformément à l'une des opinions précédentes, Dieu l'a voulu ainsi, ou sa sagesse l'a exigé ainsi. Mais les mêmes réponses, on pourrait le faire à la première question. Pourquoi Hachem, il a fait que les animaux, ils mangent un l'autre et ça fait mal, et pour les humains, non? Hachem, il a décidé comme ça. Sur ça, Hachem, il a fait une différence entre les humains et les animaux. Maintenant, pour la finition de toute cette théologie que le Rambam a développée jusqu'à maintenant, la Rambam ajoute encore quelque chose de très important. Et ça, c'est important, bien sûr, pour ce que le Baal Shem Tov a dit. Ici, c'est la préparation à ce que le Baal Shem Tov dit. Il faut que tu comprennes mon opinion à fond. Certes, je suis loin de croire qu'une chose quelconque puisse être inconnue à Hachem. Ne crois pas qu'Hachem n'est pas au courant quelle sardine rentre dans la bouche de quel saumon, ou de lui attribuer l'impuissance, soit que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Ne crois pas ça. Vadaï, Hachem, il est au courant. Il sait, il y a son, comment on appelle ça, son inventaire. Quand un homme, il a un magasin à Carrefour, une fois par année, ils font un inventaire. Bon, aujourd'hui, il y a tous les jours l'inventaire parce qu'ils ont l'ordinateur et tout. On fait un inventaire pour savoir quelles marchandises je possède, qu'est-ce qui va arriver. Ne crois pas qu'Hachem ne connaît pas son inventaire, il ne sait pas. Combien de sardines il y a? Évidemment, il connaît. Mais je crois que la providence dépend de l'intelligence à laquelle elle est intimement liée. L'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence divine de l'homme. L'homme, il peut comprendre Hachem, donc Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui. Maintenant, nous allons continuer, chapitre 18. La providence, donc la Hashgacha, Pratit veillera avec un très grand soin sur les prophètes et variera selon le rang que ceux-ci occupent dans la prophétie. Et de même, elle veillera sur les hommes supérieurs et les vertueux, c'est-à-dire les tzadikim, selon leur degré de supériorité et de leur vertu. Donc, le Rambam y parle des Nevi'im, des tzadikim, des justes, des gens bien avec leur vertu, selon le degré de leur vertu. Ça veut dire quoi un tzadik? Il y a un tzadik? Il y a tzadik ou racha? Bien sûr que non. Il y a tzadik. Il y a plus tzadik, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Il y a beaucoup de madrigotes. S'il y a 1 million de gens, et ils sont tous tzadikim, il y aura 1 million de tzadikim différents de l'autre. Chacun, il est quelque part. On fait une mitzvah, on fait 10 mitzvot, on fait 100, on fait 1000, 2000, etc., etc. Pas seulement le nombre de mitzvot, les qualités des mitzvot, etc., etc. Selon le degré de tzidkout, de piété, de mitzvot, de chesed, de la madriga de l'homme, selon ce degré, il y a Hashgacha Pratit. Donc, il y a des gens qu'Hachem tout le temps les surveille. Il y a des gens qu'Hachem 3/4 de la journée les surveille. Il y en a une moitié de la journée, il y en a 1 minute, etc., etc. Pas seulement dans le temps, j'ai dit 1 minute ou 10 heures, c'est pas seulement dans le temps, ça dépend. Qu'est-ce qui lui aide et à combien il vient à son secours. Selon le degré de la vertu, Hachem le surveille. Quant aux hommes ignorants et pécheurs, ils se trouvent dans un état méprisable et sont au rang des autres espèces d'animaux. Nimshal ka behemot nidmu dans Tehilim. Des voyous, des rechaim, qui sont fous d'Hachem, qui vivent comme des animaux, eh bien, s'ils vivent comme des animaux, le prophète il dit, Nimshal ka behemot nidmu. Ils sont comparés aux animaux, nidmu. Voilà, ils sont comparés aux animaux. Donc, aux animaux, comme on avait dit, il y a que des joueurs qu'on ne fait pas d'Ashgecha Pratit. Donc, c'est la nature des choses. Si l'antilope, par nature, il passe devant un lion affamé, il va se faire manger. S'il ne passe pas devant le lion, il ne va pas se faire manger. Donc, les gens de Rechaïm, ils vivent dans ce monde-là. S'il arrive un accident, si d'après les probabilités d'accident, une fois il meurt, une fois il ne meurt pas, le bon Dieu ne veut. Tu veux vivre comme un animal, je te catalogue là-bas. Ah, et si tu vois qu'il y a un rachat, et on dirait qu'il y a un miracle, Hachem lui a fait. Vraiment, il a échappé, belle, celui-là, une chance sur mille, et le bon Dieu, pour ce rachat, il a fait un miracle. C'est un salaire. C'est cet homme-là, il a fait une bonne chose. Parce que quand on dit un rachat n'a jamais fait des bonnes choses. Aussi, il a fait des bonnes choses. Chacun, il fait quelque chose. Chacun, même un rachat, il fait des bonnes choses. Des fois, il fait un chesed. Il est rachat, mais il fait des fois une bonne chose. Cette bonne chose, Akadosh Baruch Hu dit, je te le payerai. Ou dans l'autre monde, ou dans ce monde, ou un peu en haut, un peu en bas, d'après ce qu'Akadosh Baruch Hu considère qu'il mérite. Donc, le rachat aussi, Akadosh Baruch Hu peut lui faire. Il peut lui faire, parce que c'est quand même pas un animal. L'animal, c'est la pleine nature. Mais le rachat, du temps en temps, il pense à Hachem. Du temps en temps, il fait une bonne chose. Donc, il mérite aussi une récompense. Oui, quoi?
Le fait qu'il ait fait quelque chose de bien, au lieu qu'il soit récompensé, alors ça lui enlève toutes
ses erreurs. Ah, ça c'est là, vous posez une question. Est-ce qu'une mitzvah peut effacer une avéra?
Oh.
Est-ce qu'une mitzvah peut effacer une avéra? Il y a une Gemara de Mesechet Sota. La Gemara nous dit, « Ein mitzvah mechabe avéra. » Une mitzvah n'éteigne pas la avéra. Hachem, ils mettent sur la balance à la fin les mitzvot, la averot, pour savoir si les tzadik. Mais la mitzvah n'efface pas la avera. Et quand on donne tzedaka, on dit tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka peut sauver de la mort. Ça veut dire quoi? La tzedaka efface la avera. Qu'est-ce que vous dites? Oui, oui. Tshuva peut transformer même la avera en mitzvah. Oui. Mais je ne parle pas de tshuva maintenant. Quelqu'un fait des averot, il ne regrette pas. Oui, j'ai frappé l'autre, je ne regrette pas du tout. Oui, je le frappe, je suis méchant. Mais je fais tzedaka. Voilà, il y a un pauvre, je lui donne de l'argent. Cette tzedaka ne peut pas effacer quoi?
Si jamais la personne devait mourir, ben, ça lui éloigne de la mort.
Ça pardonne pas, mais ça peut le sauver. Ça veut dire Hachem, il peut lui faire un cadeau. Ça veut dire, maintenant, il est en danger de mort. Et d'après les règles, la probabilité, il va mourir. Hachem, il dit, bon, je te sauve parce que tu as fait tzedaka. Tu avais pitié sur un pauvre, j'ai pitié sur toi. Tu avais pitié, j'ai aussi pitié sur toi. Donc, tzedaka, tatsil mimavet. Qu'est-ce que l'homme, il gagne? Il gagne de continuer à vivre. Quand il continue à vivre, il pourrait faire encore des mitzvot. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva, la fille de Rabbi Akiva?
Oui.
Il y avait des astrologues qui ont dit à Rabbi Akiva, quand elle est née, cette fille mourra le jour qu'elle se mariera. Le jour qu'elle se mariera, elle mourra. Et Rabbi Akiva, il a marié sa fille. Et la fille le savait. Les astrologues, ils ont dit, d'après le programme céleste, alors vous mourrez le jour du mariage. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la fille de Rabbi Akiva? Elle s'est mariée. Et Rabbi Akiva, il a marié sa fille. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Ils ont préparé le repas. Quand ils ont préparé le repas, il y avait un pauvre qui frappait à la porte. Alors, frappait à la porte. Alors, personne n'a entendu. Et la fille de Rabbi Akiva l'avait entendu. Alors, le pauvre, il dit, je crève de faim. Donc, elle a pris, je ne sais pas s'il a pris sa part, peut-être elle a pris sa part, elle a donné au pauvre. Très bien. Pauvre, il est parti. Après, pendant le repas, elle avait une espèce de barrette. Une barrette. Elle a enlevé cette barrette, elle a mis dans le trou, dans le mur. Ça va. Le lendemain, ils sont passés là-bas, et elle est allée récupérer la barrette. Elle a vu que quoi? Qu'il y avait un serpent. C'est-à-dire, quand elle a posé la barrette, elle vient de crever la tête d'un aspic, ça s'appelle, une aspic? Aspic, pas aspic, ça s'appelle, un serpent qui mort, mortel? Aspic, je pense, ça s'appelle.
Non, un serpent venimeux.
Un serpent venimeux. Alors, donc Rabbi Akiva, il a dit, ah, ça veut dire que quoi? Que le serpent était derrière elle, le serpent voulait la mordre. Comme les astrologues, ils ont dit, elle est en danger de mort le jour de son mariage. Et le danger était là, voulait la mordre. Elles, sans savoir, elles mettent là-bas, elle a tué sans être au courant. Alors Rabbi Akiva, il appelle sa fille, il dit, dis-moi ma fille, est-ce que hier tu as fait quelque chose d'extraordinaire? Alors il dit, bon, je me suis occupé de ce pauvre. Il dit, voilà, tu t'es occupé de ce pauvre, voilà, tzedaka, tatsil mimavet. En vérité.
Ça veut dire que quelqu'un, il ne peut jamais avoir fait tchouva de sa vie, il n'arrive qu'à l'engagement.
J'ai pas entendu? Gan Eden, c'est pour les mitzvot. Gehenom, c'est pour les averot. Quelqu'un qui a fait des averot, vous demandez est-ce qu'il peut échapper à Gehenom ou pas? Sans faire teshuva. Est-ce qu'on peut échapper au Gehenom sans faire teshuva?
Si on
a plus de mitzvot, est-ce qu'on peut échapper à Gehenom? Ça, c'est une question que il y a différentes sortes de souffrances. Une des souffrances s'appelle Gehinnom. Il y a d'autres sortes de souffrances. Mais on peut avoir des souffrances dans ce monde. Et les souffrances dans ce monde peuvent diminuer la Averot. Les souffrances dans ce monde peuvent diminuer les souffrances de l'autre monde. Est-ce qu'ils peuvent effacer entièrement son Teshuvah? Non, mais il a fait un Avera, il n'a pas fait Teshuvah, mais il a souffert dans ce monde. Est-ce qu'il peut échapper des souffrances dans l'autre monde? Peut-être. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être les souffrances peuvent effacer entièrement. Mais ou si peut-être les souffrances peuvent diminuer fortement. Peut-être il reste encore un petit peu.
Même si la personne vit mal ses souffrances, ça veut dire même si elle
est... Quoi?
Même si la personne elle vit très mal ses souffrances, elle ne vit pas...
Quand quelqu'un il souffre et il vit mal, est-ce que ça pardonne? Ça, c'est une Mishnah. Ça, c'est une Mishnah Mefourechet dans Pirkei Avot. Hu Haya Omer, lui il disait, qui c'est lui? C'est Rabbi Akiva. C'est Perek, quel Perek? Perek 3, Mishnah Kaf, dans cette édition. Des fois, les Mishnayot, des fois, il y a différentes éditions que Mishnah. Écoutez bien, parce que c'est la haute philosophie très importante. Chaque mot de cette Mishnah, il faut écrire un livre dessus. Hu Haya Omer, lui il disait, Rabbi Akiva, Hakol Natun Ba'eiravon. Tout est donné par gage. Ça veut dire quoi? De la même façon qu'un homme qui veut acheter dans un magasin de la marchandise, alors il doit payer. Et s'il dit, je n'ai pas d'argent pour payer, alors le vendeur a pu dire, vous me donnez un gage, donnez-moi votre montre en or, et elle vaut 10 000 euros, je vous vends une voiture pour 10 000 euros. Hakol natun be'eravon. Hachem, il donne aux gens avec un gage. L'homme, il doit donner un gage à Hachem. Ou metsuda perusa al kol hachayim. Il y a un filet étendu sur toute la vie. Là où on marche, il y a un filet. C'est-à-dire quoi un filet? On peut t'attraper comme les poissons. Quand un homme veut faire sortir les poissons de la mer, il met un filet. Le poisson il rentre dans le filet, on le tire. Alors il y a un filet qui est étendu, c'est-à-dire partout où l'homme il va, Hachem il peut le pêcher. Et Chanot Petucha, le magasin est ouvert. C'est-à-dire, le magasin est ouvert, tu peux aller profiter dans ce monde. Vachen Vani Makif est le vendeur, il fait crédit. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent faire des avérotes. On peut venir ici, on peut voler, on peut faire des péchés. Et on va au magasin, on se sert. Va pinkas patouach. Mais le livre de compte est ouvert. Va yad kotev, et la main écrit. C'est-à-dire que chaque chose qu'on profite de ce monde interdit, il y a une main qui écrit ce qu'on a profité de péché. Va chola rotse l'ilvot yavov yilve. Chacun qui veut emprunter peut venir emprunter. Vahagabaim, c'est-à-dire Rabbi Akiva est en train de développer que l'homme il a le libre arbitre de pécher. Tu n'es pas obligé de pécher. Toute cette Mishnah, c'est contre ce que les Hacharites ont dit, que ce qui est tzaddik, il est obligé d'être tzaddik, ce qui est racha, il est obligé d'être racha. Rabbi Akiva dit tout le contraire. C'est toi qui empruntes. Vahagabaim et les encaisseurs des dettes, marzirin tadir becholyom. Ils tournent toute la journée. Venifreim en Adam, il faut encaisser les dettes à l'homme. Midato, qu'il sera d'accord, ou selon Midato, qu'il ne sera pas d'accord. Ça, c'est la réponse à votre question. Si quelqu'un, ça veut dire quoi les gabaim? C'est comme quelqu'un, il a une dette, l'huissier vient. Monsieur, vous devez de l'argent, vous êtes obligé de payer. Alors, je prends 100 euros aujourd'hui, demain, je vous prends 100 euros. L'huissier, ils embêtent les gens qui ont des dettes. Donc, Hachem, il envoie des huissiers toute la journée, ils encaissent. C'est-à-dire un jour. On a un PV, un jour on se coince les doigts, un autre jour on ne trouve pas d'endroit pour garer. Moi je me tournais 20 minutes avec ma voiture là pour trouver une place pour garer. À la fin j'ai trouvé, 20 minutes ça m'a pris. Ça énerve les gens. 20 minutes on perd 20 minutes. Canary le bon Dieu, il voulait même un peu embêter 20 minutes. Alors, les Gabaim, Marzirim, si j'aurais eu le shrout, j'aurais trouvé tout de suite la place. Mais je n'avais pas ce shrout de trouver tout de suite. Alors, Vahama Gabaim, Marzirim, Tamid, Becholyom. Les huissiers, ils encaissent toute la journée. Venifraim et Adam, ils font payer l'homme midato, qu'il accepte ou shalom midato, qu'il n'accepte pas. C'est-à-dire, un homme qui souffre, il dit, bon, tu me fais kapara, t'as mon autre kapara. Alors, c'est kapara, on lui enlève. Et si l'homme dit, je ne veux pas souffrir, pas grave, on t'enlève quand même. On t'enlève quand même le péché, c'est même si on n'est pas d'accord. Veyesh lehem al-mashi ismochu. Et ces huissiers, ils ont sur quoi s'appuyer. Ça veut dire, des fois, il y a un huissier qui se pointe à la porte. Je ne vous souhaite pas. Ce n'est pas agréable d'avoir des huissiers sur la tête. Mais un huissier, c'est quelqu'un. Monsieur, vous avez une dette là d'un PV que vous n'avez pas payé à 2000 euros. Payez. Alors, je dis, mais non, je n'en ai pas de PV. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'huissier? Il est obligé de présenter le papier. Voilà. Je suis mandaté par le juge. Il y a 3 semaines, vous étiez condamné à payer. Vous n'avez pas payé. Voilà la facture. Mais si l'huissier ne me montre pas de papier, je dis, je ne vous paye rien. Vous n'avez pas sur quoi s'appuyer. Maintenant, quand à Kadesh Bokhil, on va les huissiers pour encaisser chez l'homme. Ils ont un mandat du ciel. Ça veut dire, il n'arrive rien de mal à l'homme si l'huissier n'a pas un mandat. Si l'homme ne le mérite pas, il ne t'arrive pas de mal. Il y a quelque chose à payer. Yesh le machis mochou. Va din din emet. Le jugement, c'est un jugement de vérité. Va à Kol me toukan la Souda et tout prépare le grand repas. Tous les événements de la vie, c'est une préparation pour le grand repas. C'est quoi le grand repas? Le Olam Haba, le Gan Eden. Au Gan Eden, il y a un repas de grande classe, gastronomie, haute gastronomie au Gan Eden. Et les tzadikim, ils peuvent kiffer là-bas. Et à Kéouch, ils préparent ce repas. Donc, si quelqu'un il arrive avec plein d'averot au repas, alors c'est désagréable, il arrive avec des habits sales. Les gens ils vont le jeter, mettre dehors. Alors Hachem, il enlève les péchés, et comme ça, on diminue, comme ça, tu arrives avec des habits propres, accolme tout Cana et Souda, tout est pour préparer le repas du Gan Eden. C'est une image, bien sûr. Alors, on va continuer ici le Rambam. Alors, donc, il a dit que les... Oui.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il gagne, la personne qui a bien vécu ses histoires, ça veut dire qu'il les a vécues avec le Mouna. De toute façon, ça enlève le péché. Alors, autant parler.
Qu'on dirait que ça lave mieux. Ça lave mieux. Et comme dit le Rabbeinu Yonah, il y a des gens qui ont des taches sur l'habit. Et quand ils ont des taches sur les habits, il faut les laver. Mais des fois, la tache, il est tenace, il est ancré dans l'habit, c'est très difficile à sortir. Mais on peut quand même enlever l'extérieur. Donc il dit, il y a des tchouvot, ça enlève la grande crasse. Mais il reste encore, on voit encore, c'est pas propre. Encore un peu de tchouva, encore un peu plus. Et si on a bien fait de tchouva, alors c'est nickel. Donc c'est sûr que ceux qui me kabel et sourient b'ahava, ils acceptent les souffrances avec ahava, ça devient beaucoup plus nickel. Ça sert mieux. Ça sert mieux. Mais même si on n'accepte pas, ça sert. Mais ça sert mieux, c'est plus propre.
Est-ce qu'on peut se mettre soi-même des souris ? C'est aussi
le problème ? Ah, ça, la Gemara nous dit qu'il ne faut jamais demander. Il ne faut pas le demander. La Gemara nous dit qu'un homme ne doit pas demander des souris.
Non, pas demander.
Pourquoi ? Hein ? Oui, mais normalement, la Gemara compte des conseils. Pourquoi ? De peur qu'on regrette. De peur qu'on le regrette. Qu'on s'énerve après contre Hachem. Parce que quand on souffre, il y a des gens qui s'énervent contre Hachem, et ce n'est pas bon. Donc un homme qui souhaite qu'Hachem le rende malade, et peut-être quand on est malade, on va s'énerver contre Hachem. Alors il faut pas demander. L'oeil à l'aider, il sourit. Hein ? On se fait soi-même. On se fait des souffrances, mais on peut dominer la chose. Ça veut dire quoi? Il va dormir sur la neige. Il y avait des gens qui se roulaient dans la neige. Vous êtes déjà roulé dans la neige? Ça brûle, la neige. Vous avez déjà essayé? Vous mettez dans la neige et vous vous roulez dans la neige. Comme ça, 10 minutes, ça brûle comme le feu. Là, le froid, c'est comme le feu. On a le droit de faire ça si on est en bonne santé. Si on est en bonne santé. C'est marqué l'état des Kim, il faisait ça, oui. Ou faire des ta'aniot, mais on a le droit de le faire, jeûner par exemple. Il y a des gens qui jeûnent le kaparat avonot. Au Maroc, il y en a des gens qui jeûnent de Motsé Shabbat jusqu'à Shabbat prochain. C'est de la fois 6 jours. Quoi ?
Votre...
Mais il y a, on peut faire, mais on a le droit de le faire qu'à une condition, à deux conditions. Que le corps peut le supporter, qu'on n'a pas des dégâts de santé. Celui qui ça laisse des traces de dégâts de santé, on n'a pas le droit de le faire.
Hein? Ça abîme le corps.
Non, il y a des gens qui après ils peuvent rattraper. Il est fatigué, mais après il mange, le lendemain il rattrape. Il y a des gens qui ne peuvent plus rattraper. Si on ne peut pas rattraper la faiblesse, on n'a pas le droit de le faire. Des souffrances morales. Ah, se marier avec une méchante belle-mère. Je ne vous le souhaite pas. Quoi, des souffrances morales? Elle veut se marier avec une belle-mère méchante, comme ça elle sera. Quoi? Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas le chercher, parce que peut-être on va le vivre mal. Il faut se souhaiter du bien, du bonheur. Il ne faut pas être masochiste. Il faut être joyeux dans la vie. Mieux vaut être joyeux dans la vie que souffrir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le bon Dieu, il veut qu'on est en bonne humeur, vous savez. Le bon Dieu ne veut pas qu'on souffre. Il veut qu'on soit joyeux. Lui, il veut qu'on soit joyeux. C'est pour ça qu'on quelqu'un est malade. Il peut dire à quelqu'un, guéris-moi. Pourquoi? Comme ça, je serai de bonne humeur. Tu veux bien que je serai de bonne humeur. Je peux faire la mitzvot avec bonne humeur, c'est mieux. Alors, guéris-moi. Non, mais il y a deux conditions pour se jeûner. Une condition, que ça n'abîme pas la santé. Et deuxième condition, que ça ne diminue pas faire la mitzvot. Si quelqu'un demande, je veux faire la mitzvot, j'ai besoin de toutes mes forces. Quelqu'un doit faire un cours. Yann Halakha Shulchan Aruch. Quand quelqu'un est enseignant, ou vous êtes un travailleur, vous êtes une travailleuse, pour bien faire le travail vis-à-vis du patron, il faut dormir bien. Quand on ne dort pas une nuit, on n'a pas la tête, on ne peut pas bien enseigner, on ne peut pas bien travailler. Alors, les gens qui travaillent pour d'autres personnes, ils sont obligés de faire le maximum. Il faut que j'ai toutes mes forces, donc il ne faut pas veiller la nuit. Il y a des gens, beaucoup de gens, ils transgressent ça. Ils restent au mariage jusqu'à 3 heures la nuit. Et demain, ce sont des, comment on appelle ça, des locs, comment on appelle ça, des locs. Ils arrivent, et des fois, un prof, et des fois aussi, j'enseigne, et je suis fatigué, et tout, et truc, il faut tenir. On ne peut pas bien enseigner. Et il y a beaucoup de métiers, il faut que tu aies toutes tes forces. Maintenant, il y a des métiers qui sont, bon, fatigués ou pas fatigués, on peut faire la même chose. Balayer la rue, même ça, bon. Mais en tout cas, c'est marqué sur Shulchan Aruch. Donc, ceux qui veulent jeûner, alors quand on jeûne, il y a des gens qui peuvent jeûner, et ils ont toutes leurs forces. Et ils peuvent travailler bien. Mais quelqu'un qui, quand il jeûne, il ne fait pas son travail bien, ça ne vaut pas la peine. Comme ça, il est marqué sur Shulchan Aruch. Il ne faut pas qu'il jeûne, il n'a pas le droit de jeûner. Parce que tu gagnes ta vie, il faut que tu travailles pour quelqu'un, il faut que le travail soit bien fait. Spécialement pour les enseignants, c'est marqué, ils n'ont pas le droit de dormir tard. Si tu as besoin de récupérer tes forces. Alors, donc il ne faut pas chercher à souffrir. Alors.
Et est-ce qu'on. Oui. Une question. On dit qu'on n'a pas le droit de demander à HM des épreuves. Enfin,
il ne faut pas, c'est déconseillé.
Non, mais je ne parle pas des souffrances physiques. Je parle des. Par exemple, on dit que. Par exemple, je me suis dit que, par exemple, dans telle situation, je me suis énervée et que j'aurais dû pas. HM, on met une autre situation, je puisse me rattraper. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas?
Il ne faut pas, parce que peut-être vous allez vous énerver une deuxième fois. Il y avait un rabbin qui a fait ça. Vous savez qui a demandé ça?
David,
le roi David. David, il a dit à Kadesh Baruch Hu, teste-moi comme tu as testé avant Yitzhak Yaakov. Je veux savoir si je suis tzadé comme Yitzhak Yaakov. Donne-moi un grand Yitzhak Hara et je vais montrer que je suis fidèle comme Yitzhak Yaakov. Et Kadesh Baruch Hu lui a dit, tu veux que je te fais un test? Il dit, oui, je veux. Il a demandé, il est tombé dedans et ça ne marchait pas. L'histoire de Bathsheba, c'était parce que David, il a demandé lui-même. Et Hachem lui a donné Yitzhak Hara de folie, mille fois plus que normal. Parce qu'il a demandé, mais la Gemara nous raconte pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a donné Yetzer Hara tellement fort. Parce que Kadosh Baruch Hu lui dit que s'il résiste, il est super tzaddik, c'est génial. Et s'il tombe, il va faire teshuva, il va montrer aux gens comment on fait teshuva. Donc David Emelach, il a fait teshuva, il a fait beaucoup de chapitres de Tehillim, il a préparé le chemin de faire teshuva. Et les juifs qui font teshuva, ils marchent sur le chemin que David Emelach, il a préparé. Donc, à la fin, tout est bien qui finit bien. Alors donc, le Rambam, il a dit que si un homme il se comporte comme un animal, un rachat, HaKadosh Baruch Hu le considère comme un animal. C'est pour ça qu'il a été considéré comme une chose légère de les tuer. Ça veut dire quoi? Quand Yeshua Benoun, il est rentré, il a demandé de liquider les Shiva Umot, les sept peuples, ou un homme qui est condamné à mort. Il y a des gens, des assassins. La Torah dit, il faut les condamner à mort. Et pourquoi tu condamnes à mort? Et parce qu'il est un animal. Et cela a été même ordonné pour le bien public. Des fois, on est obligé de... Alors ici, il y a un point. Il faut bien comprendre. Je vais dire quelque chose de délicat. Faites attention à ce que je vous dis maintenant. C'est une idée que je vous dis qu'il faut manipuler avec beaucoup de soin. Et pourtant, elle est vraie. Mais il ne faut pas la... Il ne faut pas parler de cette idée à tous les coins de rue. C'est dangereux. C'est qu'ici, le Rambam dit qu'il y a des gens qui sont comparés qu'à des animaux de Rechaïm. Ça veut dire que le tzaddik et le rachat, la vie ne vaut pas la même chose. La vie ne vaut pas la même chose. Ces gens-là que la Torah elle a condamnés à mort, eh bien, ils sont condamnés à mort. Parce qu'il se comporte comme un animal, HaKadosh Baruch Hu lui fixe les décisions. D'un animal, ça veut dire le tzaddik et le rachat ne valent pas la même chose. Cette idée est interdite à dire en France. Quand je vous le dis, c'est interdit de dire en France. Parce que la République française a décidé égalité, fraternité, et ils ont décidé que c'est laïque. Donc, quand on dit laïque, ça veut dire que tzaddik et rachat n'est pas une référence. Donc, tzaddik et rachat, tu enlèves, donc tous les gens sont pareils. Bien sûr, cette égalité que la France parle, tout le monde se moque de ça. Parce que tout le monde sait que c'est triché. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les voleurs en France? On les met aux prisons. Pourquoi? Égalité, l'honnête et l'honnête, il faut s'occuper de lui de pareil. Parce que les gens, ils veulent se débarrasser des voleurs. Donc, en vérité, l'égalité, elle est au début du chemin, avant que tu aies commencé ta carrière de voleur. Si tu es honnête, alors tout le monde, il est pareil. Mais ceux qui sont voleurs, on le met bien en prison, on le punit. Donc, quand l'homme, il agit, il n'y a plus d'égalité. Ça dépend comment il agit. Mais la Torah, bien sûr, elle a fixé. Lui, il est racha, lui, il est tzaddik. Mais les Français, ils n'aiment pas d'entendre ça. Parce que les rechaïm n'aiment pas qu'on les considère comme moins importantes comme les tzaddikim. Les rechaïm, ils se rebellent contre cette idée qu'il peut exister un homme qui vaut moins que l'autre. Parce que le racha, pas seulement il veut être racha, il veut être fier de sa méchanceté. Et ça, c'est le clou. Il ne sort pas tout le rechaïm. Il y a des rechaïm qui disent « je suis un voyou », c'est vrai. Il y a des rechaïm qui reconnaissent « vous me considérez comme voyou ?» Vous avez raison, je suis un voyou. Et je ne vaux pas grand-chose. Il y a des voyous qui reconnaissent ça. Mais il y a d'autres voyous, ceux qui ont la chemise blanche et ceux qui ont des cravates. Ça veut dire qu'il y a des voyous nobles, des grands gangsters et des gens qui font les pires des choses, mais ils veulent se garder le truc. C'est pour ça que j'ai dit cette notion-là, que les rachats et les tzaddiks ils veulent la même chose. Ça, ce n'est pas très français. Et donc, quand on vit en France, si un jour vous avez devant vous un journaliste qui vous dit il faut soigner ça, il faut diplomatiquement, il faut se tirer de l'affaire. Il faut faire attention. On continue. Fixe ton attention sur la manière dont on s'exprime à l'égard de la providence. Protégeons les situations des patriarches jusqu'au moindre détail de leur occupation et même de leurs biens. Avram, il fut dit, Anochi Magen Lach. C'est marqué dans Parshat Lech Lecha. Anochi Magen Lach, je suis ton bouclier. Ça, Hachem, il a dit quoi? Après qu'il a gagné la guerre contre les quatre rois. Avram Avinu, il a fait quelque chose d'une dangerosité extrême. Que quoi? Il a pris 318 serviteurs. Il a couru derrière la plus grande armée du monde. Les quatre rois qui ont gagné contre les cinq rois, qui ont massacré toutes les populations Proche-Orient. Une immense armée. Et Avram Avinu, avec peu des armes, il a couru derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la paille par terre, il a pris la poussière, il a jeté, un vent de 300 km s'est levé, et la paille se transformait en projectile, il a gagné contre la plus grande armée. Mais la chance de réussir, c'est une chance sur 500 000, que pile, il arrive un vent fort, et pile dans la bonne direction, et que ces projectiles, ils atteignent les ennemis, c'est une chance sur je ne sais pas combien. Et Hachem, il a aidé. Pourquoi? Anochi magen lar, je suis ton bouclier. Pourquoi? Parce que toi, Avram, tu es tzaddik. Alors je fais Ashgacha Pratit. Et c'est ça que les Juifs, ils disent dans la tfila, Baruch Hashem magen Avraham. Est-ce qu'on avait parlé de ça? De la tfila? Alors ici, il y a quelque chose de très important. Quoi? Vous n'avez jamais compris pourquoi on dit magen Avraham. Et je vais ajouter sur votre question, encore quelques questions. Quand on fait la Amida et on pensait à autre chose, est-ce qu'on a fait la mitzvah ou il faut refaire la Amida? Ah, voilà, elle sait. La première bénédiction, si on a pensé à ce qu'on dit, même si le reste on n'a pas pensé, Bediavad, la tfila, elle est acceptée. Mais si jusqu'à Magen Avraham, on n'a pas pensé ce qu'on dit, la tfila n'est pas acceptée. Il faut de la traduction. Baruch HaTashem, bénis-toi Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob.
Ouais, si on n'a pas la caméra, il faut recommencer.
Voilà.
Vraiment? Mais on ne recommence pas maintenant.
Encore, on recommence pas parce que la deuxième fois aussi, on ne va pas penser. C'est ça le problème. Théoriquement, la halakha dit qu'il faut recommencer. Théoriquement, il faut. Mais aujourd'hui, on dit on ne refait pas de peur que la deuxième fois aussi, tu ne penses pas. Alors, je vais faire une troisième fois, la troisième fois aussi, tu ne penses pas. Alors, bon. Mais on Al-Pihalacha, si on n'a pas pensé ce qu'on dit jusqu'à Magen Avraham, la tfila ne vaut rien. Et le reste, c'est moins grave. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans la première bracha? Alors, dans la première bracha, on dit Baruch HaTashem, Elokeinu velekevotinu. Bénis-toi Dieu, le Dieu de nos parents, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu d'Yakov, Akel Agadol et Givanora, le terrible, fort, puissant Dieu. Gomel, Chassadim, Tomim, Konekol. Et à la fin, on dit Melech Ozer, Omashiach, Magen, le Dieu qui aide, Ozer qui aide, ou Moshia qui sauve, ou Magen qui protège, Baruch Hashem, Magen Avram, le béni Dieu, le bouclier d'Avram. Qu'est-ce que c'est si important? Alors le pshat, il est comme ça. Écoutez bien. À première vue, on aurait compris quand un homme fait un tefila. Quand vous envoyez une lettre à quelqu'un, alors vous écrivez, je vous demande de m'envoyer ça, ça, ça. Mais au début, il faut un titre, il faut dire à qui on envoie l'adresse. Oui? À qui j'envoie. Donc, je fais un tefila. Moi, j'ai besoin de la guérison et de parnassa, etc., etc. Et à qui j'envoie cette lettre-là, la tefila? À Dieu. Donc, il faut que je sais à qui je demande. Pas au Bouddha, pas à Krishna, pas au Napoléon. Je demande à Hachem. Donc, on aurait pu dire l'adresse. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Bénis-toi Dieu, le maître du monde. Non? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire? Quand je mange une banane, qu'est-ce que j'ai fait? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Bo Repri Adama. Quand je bois un verre d'eau, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shakol Nibet Varo. Bénis-toi Dieu, notre Dieu, le roi du monde, le roi de l'univers. Et quand on fait un tefila, on ne dit pas Baruch HaTashem Elokeinu Melech HaOlam. On dit Baruch HaTashem Elokeinu, notre Dieu, Veloke Avotenu, et le Dieu de nos parents, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov.
C'est pour
Pour appeler Shrut Avot. Ça veut dire quoi? J'adresse ma prière à ce Dieu à qui les patriarches ont travaillé toute leur vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. On aurait pu aussi dire le Dieu de l'Havdil de Saddam Hussein. Vous connaissez Saddam Hussein? Lui aussi croyait en Dieu. Et c'est le même Dieu. Alors j'aurais pu dire Baruch Hashem Elokeinu Veloke Saddam Hussein. Hein? Pourquoi? Mais lui aussi croyait en Dieu. Mais pour lui, Dieu, ce n'était pas ce que pour Abraham Israël Yaakov. Pour lui, Dieu, c'était que si lui veut s'accaparer l'argent des autres, il dit, Dieu, aide-moi que je gagne la guerre contre les autres. Quand lui voulait s'accaparer d'une femme de quelqu'un, il a dit, Dieu, aide-moi que je coupe la tête de l'autre, je prends sa femme. Pour lui, Dieu, c'est quelqu'un qui lui aide à voler d'argent. Ça, c'est le Dieu pour lui. Mais Abraham, Israël, Yaakov, pour eux, le Dieu, c'est ce Dieu qu'eux, ils ont travaillé jour et nuit pour le servir. Donc, nous, on s'adresse au Dieu d'Abraham, Israël, Yaakov. Mais ça ne suffit pas. On ajoute, « Melech le roi, Ozer qui aide, ou Moshia qui sauve, ou Magen qui protège. Baruch at Hashem, Magen Avraham, le bouclier d'Abraham. » À quel moment Hashem, il a dit, « Je suis ton bouclier. » Vous connaissez l'histoire? Après la guerre des quatre rois. Alors Hachem, il est dit, je suis ton bouclier. Ça veut dire quoi? Toi, tu étais prêt à se mettre en danger de mort pour Kiddush Hachem. Eh bien, tu peux continuer comme ça. Parce que je vais te faire Ashgacha Pratit. Même quand tu es en danger de mort, je te protège. Ça, c'est si important pour le tfila d'un juif. Le juif, la différence entre les goyim et les clans d'Israël, c'est quoi? Que les juifs, nous sommes obligés de prendre un risque de danger de mort. Le fait que nous sommes juifs, ça nous met en danger de mort. Pourquoi? Parce que les goyim ne supportent pas que nous sommes des juifs. La Rambam, il dit, c'est quoi la racine de l'antisémitisme? Les goyim n'ont pas digéré le fait que les juifs ont un statut spécial, qu'Hachem, il a fait une alliance avec nous. Nous avons une proximité avec Hachem. On a fait une alliance avec lui. Il nous aime, nous l'aimons, nous avons reçu une belle Torah. Avec cette Torah, nous avons accès au Gan Eden facilement. Cette proximité avec Hachem, ça les rend fous, ça les rend jaloux. C'est pour ça qu'ils veulent une des deux, ou que les Juifs ils abandonnent le judaïsme, ou ils veulent nous éliminer, ou ils veulent nous décourager, ils veulent nous affaiblir par jalousie. Ça, c'est ce que le Rambam il dit. Alors, le fait qu'Avraham Avinu, il s'est distingué des goyim, il a dit, moi, je vais bâtir un peuple de tzadikim, ça le met en danger. Et c'est pour ça, les gens, ils ont voulu Avraham. Alors, Hachem, il a dit, Anochi Magen Lach, je serai ton bouclier. Un juif qui va au métro, Un garçon qui va au métro, c'est mieux avec ou sans kippa?
Avec une casquette.
Hein?
Avec une casquette.
C'est mieux en casquette avec une kippa?
Casquette.
Moi, j'y vais en kippa. Vous savez pourquoi j'y vais en kippa?
C'est le bouclier.
Quoi?
C'est le bouclier.
C'est le bouclier, j'espère. Oui. Il m'a dit, pourquoi vous n'allez pas avec un chapeau? J'ai dit, parce que les enfants juifs ne peuvent pas marcher avec un chapeau. Ils marchent avec la kippa. Et la kippa, ça énerve les antisémites.
Ouais.
Mais Hachem protège. Hachem, il va nous protéger. Alors que l'équipa, il n'y a que des enfants juifs qui marchent. Hein? Bon, si c'est un chapeau spécial juif, c'est bien. Les chapeaux spécifiquement juifs, là, ça c'est Hiddur Mitzvah. Avec des habits hassidiques, avec la barbe à la juif, le piote, ça c'est les Hiddur Mitzvah. On n'a rien à se gêner. Si ça vous n'êtes pas content, vous allez chez le psychiatre. C'est pas, le problème n'est pas chez nous.